Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Intégral Tour.
Christophe Cessier.
À moins de 25 km de l'arrivée de cette 17e étape, il va se passer des choses, ça sent la poudre dans l'avant-dernière ascension de cette étape dans le col de Val-Louron, avec donc un groupe de tête qui n'a plus que quelques dizaines de secondes d'avance. On fait un nouveau point complet de la situation avec toi, Pierre-Yves, le top course tout de suite.
24 km encore à parcourir dans cette étape, 4 km d'ascension dans le col de Val-Louron. Azay à l'instant même, Sepp Kuss, l'équipier de Vingegaard, est distancé et ça veut dire qu'on repasse à 2-1 puisque McNulty est en compagnie de Pogacar. L'avant de la course, c'est surtout ça qui nous intéresse pour le moment. Leknessoud possède 17 secondes d'avance sur Rigoberto Urán et derrière plus que 20 secondes sur ce groupe avec McNulty, Pogacar dans sa roue, Vingegaard et Geraint Thomas. Ils vont sans doute, comme tu le disais Jérôme tout à l'heure, passer en tête les quatre au sommet tout à l'heure du col de Val-Louron-Azay, et la grande bataille va démarrer peut-être dans la descente ou dans la montée finale de Peyragudes. Gaudu, David de son prénom, est en compagnie de Thibaut Pinot et de Valentin Madouas à 1.43 de la tête de course. Romain Bardet, lui, vient d'être lâché il y a quelques instants de ce groupe maillot jaune et va perdre du temps à nouveau, tout comme Quintana.
Ah, c'est pas la journée des Français, même s'ils ont été à l'avant de cette course. Et là, Thibaut Pinot, lui, s'est mis désormais au service de David Gaudu. On va voir s'il réussit à prendre des relais, Cyril, ou alors s'il est complètement cramé. Tu me disais qu'il avait l'air un peu pendu là.
Le problème, c'est qu'il est parti dans cette échappée non pas avec l'intention d'être à l'avant pour pouvoir servir de relais, mais pour essayer d'aller chercher la gagne de l'étape. Et il s'est mis carrément à fond pour essayer de creuser les écarts. Après, il a été rejoint, il a explosé. Je suis pas sûr qu'il lui reste du gaz parce qu'il n'en a pas conservé. Regardez les autres équipiers des leaders, quand ils sont devant, ils ne roulent pas, ils ratonnent au maximum de façon à avoir le maximum de force pour pouvoir aider le leader s'il est en difficulté, ou pour lui permettre d'attaquer éventuellement ou de en fonction des circonstances d'être utile, comme l'ont été Van Aert à certains moments et les équipiers de Pogacar.
En tout cas, le podium, l'espoir de podium est en train de s'envoler, à la fois pour Romain Bardet, c'était déjà le cas hier, et pour David Gaudu qui avait réussi à s'accrocher, qui avait réussi aussi dans les étapes précédentes, Jérôme, à, même s'il avait été décroché dans un premier temps, à revenir. Là, malheureusement, l'écart semble trop important.
Oui, l'écart est trop important. Il a déjà 1 minute 20 de retard sur le groupe maillot jaune, sachant qu'il reste encore la montée vers Peyragudes. L'addition risque d'être un petit peu salée.
Attention,
c'est dur pour Geraint Thomas.
Oui, c'est dur à l'instant pour Geraint Thomas qui perd un petit peu de temps. Il reste 3 km d'ascension, attention, rien n'est fait. Et puis, on le rappelle, il y a derrière Peyragudes, donc il va se passer encore des choses et on va peut-être avoir désormais l'attaque, le scénario final. On va voir Vingegaard est dans la roue de Pogacar qui a devant lui un équipier, Brandon McNulty. Ils ne sont plus que 3-2-1 pour avantage UAE.
Ah oui, Geraint Thomas qui a pris un petit tir là, il est à une vingtaine de mètres, mais les écarts sont en train de grandir pour le troisième au classement général qui va s'accrocher maintenant à sa place sur le podium, parce que aller viser une des deux premières places sera difficile aujourd'hui à réaliser pour Geraint Thomas. Ils sont tous largués sauf McNulty, donc coéquipier modèle aujourd'hui pour Pogacar, et Vingegaard qui a l'air plutôt pas mal, hein, Jérôme, dans cette ascension. Ouais, comme tous les jours depuis le départ de ce tour.
Exactement, comme tous les jours, il a l'air très bien. Mais quel numéro de McNulty, hein, ça fait 7 km qu'il roule, il a fait péter tout le monde, le 3ème, le 4ème, le 5ème au général, il a tout fait exploser. Il lui reste plus que Pogacar et Vingegaard dans la roue, et il a pas l'air au plus mal en plus, McNulty. Il en a encore un petit peu sous le pied, bien sûr. Il faut qu'il aille jusqu'en haut de Val-Louron, le plus loin possible dans la montée de Peyragudes, pour que Pogacar ait le moins d'efforts possible, qu'il mette qu'une grosse cacahuète pour essayer de sortir Vingegaard.
Voilà, la tête de course, c'est désormais McNulty, Pogacar et Vingegaard, puisque à l'instant Leknessoud a été rattrapé. Ce qu'il faudrait maintenant peut-être, c'est que Pogacar se fasse un tout petit peu dégrocher un instant, et puis se retrouve derrière en position d'observation de Vingegaard, et puis qu'il mette la plaque là, comme ça, comme faisait un certain Luc Leblanc à une époque. Ça serait bien, à mon avis, ce serait la stratégie. Si on l'avait là avec nous, Luc Leblanc, c'est sûr, c'est ce qu'il nous dirait, hein, à mon avis.
Oui, d'autant qu'il savait que mettre la plaque.
Comment ça, il savait que mettre la plaque? Il savait tout faire. Tiens, on l'a retrouvé, il est là.
C'est Luc Leblanc. c'est Luc Leblanc.
Ah, et on a retrouvé la chanson L'enfant en plus. Pas facile à retrouver, elle est plus sur internet, faudrait la remettre. Bonjour Lucho, comment ça va?
Elle est que sur
bonjour,
vinyle.
Bonjour.
Elle est que sur vinyle, en 78 tours, me semble, dit-on. Ça va Lucho?
Ben, très bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver.
Ah ben, comme tous les ans,
je vous entends tous les jours.
T'as vu, on n'a pas vieilli.
On n'a pas vieilli,
on n'a pas changé.
Mais non.
Toi non plus, t'es beau quand même. T'es beau quand même pour un vieux.
Je perds des cheveux. Hein,
ah, bah, c'est pas un problème ça.
J'ai la petite barbe grise comme toi, tu vois.
Et... les cheveux sont tombés sur le menton. Bon, Lucho, on est dans les Pyrénées, évidemment, c'est un magnifique souvenir. Pas aujourd'hui, mais demain, au Takam, où tu t'étais imposé. Oh, il y a 28 ans, t'imagines, mon petit bonhomme? 28 ans?
Ça, c'est
là,
ça c'est. Ah, mais là, ça fait mal à la tête. Hein. Oui, ça fait 28 ans. Et demain, je vais avoir les frissons.
Ouais.
Ah, oui.
Tu es déjà remonté au Takam depuis ton succès, oui, forcément.
Oui, quand j'étais avec vous.
Ben oui, me semble-t-il. Ouais.
Quand j'étais avec vous, bien sûr. Ouais. Et bon, après, c'est vrai que depuis, les années se sont écoulées. Et de le remonter demain avec les invités, je pense que. Bah, tu me connais, hein, je suis un.
Ah, ben bah, tu vas avoir la petite larme, j'imagine.
Bah, oui, rien que là d'en parler, c'est vrai que ça fait 28 ans et je m'en rends même pas compte, quoi. J'ai l'impression que c'était hier.
Moi, j'étais avec Lucho ce jour-là quand on a monté dans la voiture. Parce qu'à cette époque-là, j'accompagnais
Lucho.
Pas sur
le vélo, hein.
Non.
Ah, c'était le.
Parce que j'avais la Lucho mobile, donc il fallait qu'on s'arrête régulièrement.
Il arrivait complètement pété à toute l'école.
J'étais son chauffeur, heureusement.
Il n'y avait pas les contrôles à l'alcool. Cette année-là.
Mais non, mais c'est lui qui conduisait, donc c'était peinard. Toi, tu pouvais boire tous les alcools de Pyrénées des Alpes.
Exactement.
Ah, on en a bu du Genépi. Enfin, pas moi, parce que je conduisais.
Ouais, la Mirabelle aussi, à l'ancien.
C'était des beaux moments, non, ça. Hein,
c'était sympa. Show. Franchement, j'en garde un grand souvenir. Quoi. C'était vraiment sympa. Vous étiez une superbe équipe, comme vous l'êtes encore aujourd'hui.
Bon, ouais. Aujourd'hui, tu es dans une autre équipe.
Voilà, avec Noroto.
Voilà. Alors, c'est quoi ton rôle sur ce Tour de France?
Je pilote les invités Noroto.
Tu pilotes? Tu en as cassé combien de voitures depuis le départ? Parce que tu sais, ouais, Skoda,
oui. Oui, à la sortie de la zone technique à Saint-Étienne, c'est ça?
Ouais. Tu avais connu un moment.
T'étais parti à gauche, hein, ça, c'est un souci. Hein. En France, on roule à droite.
C'est pas grave, j'avais une 304 le lendemain. Mais...
Il avait récupéré une voiture. Voilà. Bon, on fait un petit point sur la situation parce que Thibaut Pinot n'a pas tenu très longtemps. Hein, Cyril, il a été largué du groupe Godu. Il s'était laissé rétrograder pour essayer de donner un petit coup de main à son leader, mais il n'a pas tenu.
Non, il ne s'est pas laissé rattrapé pour donner un coup de main à son leader. Il a explosé de l'avant alors qu'il tentait, et à juste titre, d'aller chercher la gagne de l'étape. Il a explosé en plein vol et après, une fois qu'on est rentré dans le rouge, il ne pouvait plus servir pas plus à Godu qu'à quelqu'un d'autre.
Je vous donne des petites nouvelles de Romain Bardet. Lui, il n'est qu'à 50 secondes derrière ce groupe. Ça veut dire qu'il est à 20 secondes derrière Geraint Thomas. Il limite la casse pour l'instant, Romain Bardet. David Godu, lui, est à 1 minute 51. Donc, Romain Bardet reprend 1 minute à David Godu, oui, actuellement.
Et Bardet va sans doute récupérer l'Eknesund.
Oui, tout à fait, puisque l'Eknesund était en tête il y a quelques instants. Encore 1,3 km d'ascension dans cette avant-dernière difficulté du jour, le col de Val-Lauron à Geraint Thomas, qui lutte, lui, à 25 secondes derrière le maillot jaune. Il les aperçoit devant lui, mais il est en lutte tout seul, il n'a pas d'équipier.
Ton impression, Lucho, sur les hommes forts de ce tour, est-ce que tu penses que Pogacar peut aujourd'hui essayer de grappiller quelques secondes à Vingegaard, qui a l'air magnifique encore une fois aujourd'hui, hein?
Ah oui, mais bon, il faut qu'il essaye dans la dernière ascension, il n'a pas le choix de toute façon, c'est aujourd'hui et demain, donc il faut au moins qu'il récupère un minimum, au minimum une minute sur Vingegaard s'il veut vraiment gagner le tour, parce que je pense que dans le contre-la-montre, il est un petit peu plus costaud que Vingegaard, sachant que, bon, il a fait quand même des meilleurs résultats que lui sur les derniers chronos, donc il y a aujourd'hui ou demain, mais bon, autant prendre des risques et attaquer Vingegaard que de rester dans sa roue et de faire deuxième du tour, ça serait dommage, mais je pense qu'il a il y a quelque chose dans la tête et je pense qu'il va se passer des choses dans Péragude aujourd'hui. Ouais.
Est-ce que tu t'es régalé sur ce Tour de France avec notamment cette étape incroyable, le col du Granon avec Vingegaard qui renverse la table justement sur laquelle était installé Pogacar?
Tout à fait, mais on retrouve un petit peu les tours d'antan, c'est-à-dire que les coureurs bien sûr réfléchissent avant d'attaquer, mais il y a une prise de risque que l'on n'avait pas vue depuis quand même pas mal d'années, et on retrouve le cyclisme d'il y a 20-25 ans, les coureurs prennent des risques, ils prennent plus d'initiatives et c'est tant mieux pour le cyclisme aujourd'hui.
Ouais. Lucho, tu restes dans le monde du vélo, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais à part le mois de juillet? Ah, je sais qu'au mois d'août tu pars en Guadeloupe, c'est tous les jours
le cas. Guadeloupe.
Voilà. Un petit peu de vacances et un petit peu de travail, c'est bien les deux.
Voilà, je vais à droite à gauche pour des entreprises, des collectivités et tout ça. Et puis bon, j'ai un beau projet qui est en train de se faire. Et puis j'écris un livre depuis 3 ans maintenant qui va sortir au mois de juin l'année prochaine, 15 jours, 3 semaines avant le Tour de France. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, 3 ans qu'on l'écrit avec un écrivain, Christian Lenné, qui est du Limousin. Et ça sera les éditions Solar d'ailleurs qui vont éditer le livre.
Tu viendras nous en parler de ce bouquin.
Hein. Oui, tout à fait, tout à fait.
C'est pas Marc Solar, hein, parce qu'il a abandonné hier, non?
Non, heureusement que c'est pas lui. Non, voilà, c'est un bouquin qui explique un petit peu ma vie, ma jeunesse, mon accident, et tout ce que j'ai pu vivre pendant ma carrière jusqu'à aujourd'hui.
Est-ce que l'hommage qu'a rendu hier Hugo Hull à son frère, est-ce que ça, j'imagine, ça a dû rappeler des choses terribles pour toi, hein, Lucho?
Oui.
On a évoqué ton histoire avec ton frère, justement, puisque lui aussi avait été fauché par une voiture, alors que vous étiez tous les deux. Toi aussi, tu avais été accidenté dans cette histoire-là. Mais voilà, quand tu vois Hugo Hull ou Luis León Sánchez,
ça m'a vachement marqué sa victoire hier. Et puis, ça me rappelle ces souvenirs-là de 1978 où j'ai perdu mon frère qui avait 8 ans dans le même accident que moi. Et c'est toujours là aujourd'hui.
Mais ça porte, on a senti Hugo Hull hier. Que ça le portait depuis 10 ans.
Bien sûr, et je pense que le fait d'avoir fait une carrière pendant 12 ans avec une jambe qui marchait à 100% et l'autre à même pas 40%, pour moi c'était un miracle.
Ah,
et
attention, attaque de Pogacar. Voilà. Attaque de Pogacar, Vingegaard qui répond à l'attaque du maillot blanc. On est à 180 mètres seulement du passage au col de Val Louron, Pierre.
Voilà, ça y est, c'est parti. Dans la descente, il va sans doute essayer Pogacar de mettre en difficulté un petit peu comme hier Vingegaard. Je vois que Cyril est un petit peu sceptique parce que c'est un peu ce qui s'est passé hier. Est-ce que c'est le bon moment pour attaquer? Il se relève immédiatement, Tadej Pogacar. Résultat,
il a largué son équipier.
C'est assez surprenant. Je pense qu'il va.
150 mètres du grimpeur. Ça sert à rien. Mais bon, Cyril,
il a tout simplement mis une petite banderille pour aller faire le classement de la montagne et puis commencer le premier petit test. Mais je pense que McNulty va revenir dans la descente, parce que les deux ne vont pas faire un trophée Baraki, c'est-à-dire un contre-la-montre à deux.
On va regarder les écarts pour le moment. Vingegaard et Pogacar donc en tête, 10 secondes derrière Brandon McNulty, à 1 minute Geraint Thomas et Sepp Kuss avec Lutsenko, à 1 minute 10 Romain Bardet, 30 secondes derrière Rigoberto Urán, et puis à 2 minutes 15 on retrouve le groupe Godu, alors que je n'aperçois pas Nairo Quintana.
Il est avec David Godu.
Ah oui, il est dans ce groupe Nairo Quintana. Donc David Godu au moins limite la casse par rapport à Nairo Quintana.
Mais il y en a d'autres qui limitent encore mieux la casse. C'est le cas de Geraint Thomas qui a été largué tout à l'heure. Il a combien de retard?
Une minute.
Romain Bardet qui passe à l'instant
avec 1 minute 04 à peu près d'écart.
Mais avec un coéquipier, avec les Knessout, ça peut être pas mal, hein, pour Romain Bardet, pour limiter la casse dans la descente avant d'aller chercher Peyragudes.
Voilà, c'était une attaque pour aller chercher des points. Étonnant quand même. Hein,
Mais McNulty est rentré.
Voilà, McNulty revient dans la descente.
Un peu inutile comme attaque, surtout qu'ils descendent à 2 à l'heure maintenant pour attendre McNulty qui va reprendre la barre. Ouais, je suis pas sûr que ça soit une attaque très judicieuse.
C'était un petit jeu.
Mais même si c'était pour le maillot à poids, il allait pas lui faire, hein, Vingegaard. Il s'en fout du maillot à poids. On verra. Est-ce que c'était juste pour tester Vingegaard ou est-ce que c'est encore un aveu d'impuissance? On verra ça dans la côte de Peyragudes.
Tiens, on a un petit cadeau à te faire, Lucho. On va revenir 28 ans en arrière, la montée d'Otacam, cette victoire incroyable alors que tu portais le maillot Festina ce jour-là, avec Indurain, avec Pantani, avec Virenque, que tu avais largué bientôt dans la montée, hein, ton ami Richard Virenque. Tiens, on écoute ça, c'était il y a quelques années.
Au départ de Cahors, Indurain est en jaune pour la deuxième fois de ce tour, apparemment il s'y habitue. Devant, avec Virenque et Delas Cuevas, ils ne sont plus que 5 à suivre le rythme d'Indurain. Parmi eux, toujours Luc Leblanc, lui qui avait mal aux jambes ce matin, il est là. Il serre les dents, mais il s'accroche.
Le plan s'en va. Bravo. Le plan est en train de démarrer. Formidable démarrage. Miguel Indurain va-t-il aller le chercher? Ce n'est pas sûr du tout.
Indurain a vraiment tout fait péter. Il ne sent plus maintenant que de l'Espagnol en rajoute. Luc Leblanc répond. On se prend à rêver.
Luc Leblanc qui est en tête. Luc Leblanc qui va aller chercher une victoire d'étape. C'est fait. Extraordinaire scénario. Luc Leblanc, vainqueur d'étape.
Voilà, victoire d'étape en 1994. Comment
j'ai failli abandonner au départ de l'étape. J'étais vraiment pas bien, j'étais dans les 10 derniers du peloton pendant au moins 150-200 bornes. L'étape faisait, si je me rappelle bien, 260 km. Et la seule montée de la journée, c'était au Takam, donc c'était pas facile. Et j'ai commencé à retrouver un petit peu de sensations dans les Pyrénées dès les premières bosses. Et là, je me suis dit, oula, ça commence à revenir. Mais j'étais prêt à l'abandon au départ.
Ouais.
Et donc là, bah, c'était formidable.
Et là, tu bats quand même, tu reviens sur Montagny et tu bats Indurain, Miguel Indurain.
Disons que si tu veux,
sa classe.
Mais quand Montagny est parti au pied d'Otakam, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Je me suis dit, c'est quand même assez long. Il faut rester quand même serein, tranquille et rester pour l'instant dans le groupe de tête. Donc, j'ai laissé partir Pantani et l'équipe Banesto avec Jean-François Bernard, Gérard Ruet, tout ça. Ils ont mis un tempo d'enfer dès le pied et ça a explosé de partout et un par un. Moi, je donnais les tickets les bons de sortie pratiquement et je me suis retrouvé avec Indurain à un moment donné et je l'ai laissé faire un petit peu et puis on voyait Pantani en point de mire. Là, j'ai commencé à passer les relais à Miguel et on a rejoint Pantani et au moment où on a rejoint Pantani je me suis dit il ne faut surtout pas rester avec Pantani. J'ai attaqué de suite et Miguel est parti aussitôt me chercher et Pantani a sauté et puis après bon, voilà le final dans le brouillard avec c'était magique.
C'est des moments magiques.
Alors,
il y a eu d'autres grands souvenirs, évidemment, d'autres grands moments dans ta carrière, notamment le titre de champion du monde. Mais au Takam, quand même, remporter une étape du Tour de France devant les plus grands grimpeurs, devant Indurain, ça reste un moment magique pour toi, forcément.
Oui, c'est magique. C'est comme l'étape des Arcs aussi.
Ouais,
d'ailleurs, c'est la seule fois où on a monté les Arcs sur le Tour de France, puisque depuis 1996, le Tour n'est jamais revenu aux Arcs.
Raison.
Il y a une seule montée, donc je suis.
Voilà, c'est la montée.
J'ai toujours le record de la montée. Donc, les Arcs, ils vont faire comme amende pour la montée Jalabert, il va falloir la
rebaptiser.
La montée du Club Blanc. Quoi.
On va leur tout mettre l'idée. Je ne sais pas s'ils accepteront, mais ce sera.
En tout cas, merci pour votre accueil. Vous êtes toujours aussi sympa et je vous adore, vous le savez.
Nous aussi, on t'adore, Moloucho. On va te laisser repartir dans quelques instants puisque tu dois ramener tes invités pour aller
voir un peu. Je suis très fier de mon successeur. Là,
il est pas mal, le petit Coppel.
Vraiment bien.
Il est pas mal.
Ouais, vraiment bien. C'est un mec classe et tout. Et ouais. Il a une très très belle analyse.
T'as déjà eu les félicitations d'un champion du monde, toi, Christophe Cessieux? Non, merci, t'as fait ma journée, Lucho. Merci.
Voilà. Et puis mon Cyril, comme d'habitude.
Ah oui.
Voilà.
Ah, on sait, vous adoriez.
Mais
vous,
oui.
Vous chicanez tous les deux.
Ah bah oui. Hein. On s'est foutu sur la gueule un paquet de fois.
Hein, Cyril appelle mes parents quand même deux ou trois fois par semaine.
Oui, mais enfin, j'ai encore des bleus. Hein.
T'as le bonjour de papa et maman.
Bah, écoute, je les ai eus il y a quelques jours au téléphone.
Voilà. La famille. Merci, mon Lucho.
Je vous embrasse. Partir. Merci.
Et demain, on va penser fort à toi, évidemment, dans la montée de
Takam. Et vive le roto.
Et voilà, exactement, tu l'as placé. 16h18 sur RMC, on revient sur la course. Donc on est à 14 km 302 de l'arrivée et trois hommes sont donc en tête, le maillot blanc, le maillot jaune et un des équipiers de Pogacar qui a donc réussi à revenir. C'est McNulty qui a repris ses relais, Pierre-Yves, dans la descente.
Oui, et il y a eu quelques scènes cocasses dans cette descente avec Brandon McNulty qui a chassé un peu de l'arrière dans un virage à gauche heureusement qui n'est pas tombé et puis Vingegaard lui qui dans un autre virage Cyril a fait l'intérieur, il a failli partir devant parce que finalement les courbes sont pas forcément parfaites de la part de Brandon McNulty.
Ouais, c'est vrai qu'il prend pas les trajectoires les plus idéales dans les virages. Alors il prend pas trop de risques mais c'est pas des très bonnes trajectoires. On voit que Vingegaard est très à l'aise et puis voilà, il remonte un peu, c'est aussi une partie psychologique hein. Il va se mettre à côté de Pogacar pour lui dire attention, même en descente je suis là, je vire un petit peu mieux que vous, je suis toujours là, attention. Je peux sortir à tout moment. On va voir ce que ça va donner dans la dernière montée, mais psychologiquement, Vingegaard est bien dans le match.
La moto RMC avec Arnaud qui est donc à l'avant de la course, pas très loin des trois hommes de tête.
Et c'est terrible pour les hommes de tête parce qu'ils sont encore dans la descente, qu'on leur indique déjà 5 km pour le début de la prochaine ascension. Enfin, terrible pour les hommes de tête. Non, ils vont pouvoir se mettre une bonne peignée, mais je peux vous dire que pour ceux qui sont derrière, ça risque de psychologiquement être un petit peu compliqué. Descente ultra rapide, on est loin de ce qu'on a vécu tout à l'heure dans la Roquette dans 6 ans avec une superbe route. Et attention parce que, du coup, je vous l'ai dit, début de la prochaine ascension, cette ascension de Peyragudes dans 5 km, cela veut dire qu'il n'y a quasiment pas de vallée entre les deux difficultés.
Et une bonne indication situation. Romain Bardet, d'après moi, est en train de rentrer sur le groupe Geraint Thomas dans quelques instants. Il a 5 secondes de retard à peine. Ils sont juste dans le virage là. Romain Bardet en compagnie de son équipier qui était parti tout à l'heure à l'avant, Andreas Leknesund. Et voilà, ça va être ça très intéressant pour Romain Bardet de pouvoir revenir à hauteur de Geraint Thomas, c'est-à-dire à une minute derrière le groupe de 3 avec Brandon McNulty, Tadej Pogacar et Vingegaard.
16h20 sur RMC, on se quitte quelques instants et on revient pour la dernière ascension du jour, le juge de paix de cette 17e étape, la montée vers Peyragudes, 8 km de montée, 7,8%, ça va monter raide et sans doute la bagarre entre le jaune et le blanc, entre Pogacar et Vingegaard. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Allons-nous assister à un renversement de situation? Vingegaard va-t-il ce soir tuer le Tour de France et battre définitivement son adversaire Pogacar? Pour l'instant, difficile à dire. Les deux hommes qui sont en tête de la course, accompagnés d'un équipier de Tadej Pogacar, désormais 8 km 400 de l'arrivée. Donc on ne va pas tarder à monter vers Peyragudes. Pierre-Yves, le top course.
8 km 300 de l'arrivée et la montée fait 8 km. Donc vous l'avez compris, on est au pied de la montée de Peyragudes, montée à 7,8%. Trois hommes en tête, Brandon McNulty qui emmène Pogacar et dans la roue Vingegaard. À 1 minute 15, le groupe Geraint Thomas, où on retrouve également Romain Bardet. Le groupe Gaudu Quintana est à 2 minutes 35. Attention, voilà, c'est parti pour cette montée vers Peyragudes. McNulty toujours en première position dans sa roue, Pogacar en troisième position, Vingegaard avantage pour l'instant 2-1 pour UAE, mais dans la tête peut-être psychologiquement l'avantage est quand même pour Vingegaard qui n'a qu'à surveiller et à gérer et à réagir quand il y aura les attaques.
Pogacar qui a pris soin de jeter un de ses bidons avant de se rafraîchir une première fois puis de jeter son bidon, il se prépare à l'attaque, il va serrer les calepiers même s'il n'y a plus de calepiers désormais, Jérôme, mais l'expression reste la même hein.
L'expression reste la même, oui, bien sûr qu'il va tenter. Hein. Maintenant, j'ai un peu peur que Vingegaard soit quand même au-dessus de Pogacar. Pogacar va tenter une fois, deux fois, mais il faudrait faire attention à ne pas se faire contrer par Vingegaard. Parce qu'attaquer dans l'avant-dernière difficulté, comme il l'a fait, mais à 200 mètres du sommet, si vous êtes vraiment fort, vous tentez d'un petit peu plus loin. Même si Vingegaard n'était pas super, il n'aurait pas pété à 200 mètres de Val-Louron. Voilà, je ne suis pas hyper confiant pour Pogacar. Vingegaard a l'air très très bien. Est-ce qu'il va jouer complètement sur la défensive ou est-ce qu'il va tenter de tuer le tour aujourd'hui et d'assommer encore une fois Pogacar? On verra ça dans les kilomètres à venir.
Pogacar qui était seulé, Vingegaard pardon, qui était seulé, puisqu'on rappelle que Sepp Kuss, son dernier équipier, se trouve derrière avec un groupe notamment comprenant le Romain Bardet et Geraint Thomas. Ils sont pointés avec 1 minute 17 de retard.
Oui, et Leknesund, l'équipier de Romain Bardet, n'arrive pas à suivre. On va voir si Romain Bardet s'est refait un petit peu la cerise. En tout cas, il est en bonne position quand même hein. Il est à 1 minute 18 en compagnie de Geraint Thomas. En compagnie, et il va placer une attaque. Il place une attaque, Romain Bardet. Il a bien observé Geraint Thomas. C'était vraiment franc. Il l'a regardé. Il a vu peut-être sur le visage du Britannique qu'il n'était pas en super forme. Néanmoins, Geraint Thomas réussit à suivre. Contrairement à Lutsenko, ils ne sont plus que deux. Car Sepp Kuss, lui, n'a pas réussi à prendre la roue de Romain Bardet. Le groupe Quintana et Gaudu est à 1 minute 15 derrière. Eh bien, on peut dire que Romain Bardet est bien, très bien par rapport à hier.
Il s'est refait la cerise. Romain Bardet, il se remet sur ses pédales en danseuse. Geraint Thomas n'a eu aucun mal, malgré tout, à récupérer la roue de Bardet, hein, Jérôme.
Oui, il est revenu assez facilement, mais les deux hommes, il faut qu'ils collaborent maintenant. Romain Bardet, il va faire un rapproché au classement général. Geraint Thomas, il va conforter encore sa troisième place, parce que finalement, le groupe Quintana et Gaudu sont pas si loin que ça. Ils sont 1 minute 15 derrière, il y a 8 km d'ascension. C'est un groupe assez nombreux. Gaudu a pu bénéficier du travail de Madouas, notamment. Voilà, est-ce qu'ils n'ont pas retrouvé un petit peu d'énergie? Les Gaudu, les Mentis qui sont dans le groupe derrière sur 8 km, vous pouvez facilement boucher une minute si vous vous êtes refait un peu la cerise. Donc Geraint Thomas et Romain Bardet doivent collaborer pour creuser les écarts sur David Gaudu.
Madouas qui remplit parfaitement, Cyril, son rôle d'équipier. Madouas qui pourrait lui aussi entrer dans le top 10 de ce Tour de France s'il réussit à tenir la roue de Gaudu et de tous les autres tout à l'heure. C'est fait un très beau travail aujourd'hui, Valentin, après avoir tenté sa chance tout seul hier.
Il fait un très beau travail. Efficace d'ailleurs. Bon, rentrer dans le top 10, oui, mais pour l'instant, il se met à la barre depuis un moment pour protéger et essayer de limiter la casse pour David Gaudu. Je pense que quand ça va le prendre par les pattes de la
Oui, c'est pas son but d'être dans le top 10.
Son but, c'est de faire en sorte que David Gaudu perde le moins de temps possible. Et puis, bon, bah, quand il sera cuit, il sera cuit. Voilà. Mais pour revenir à Bardet tout à l'heure, je vois pas pourquoi il a placer une mine, alors que maintenant il demande à Geraint Thomas de tourner. Il fallait tout simplement accélérer et emmener Geraint Thomas avec lui. Il a quand même avantage, ils ont quand même un avantage à être à deux. Et puis s'il est plus fort dans le final, il va le lâcher.
Mais il a peut-être pensé dès ce moment-là qu'il était plus fort. Il l'a vraiment jaugé, il l'a regardé.
Bah, il a mal jaugé.
ça arrive. Maintenant, on va voir si Pogacar jauge Vingegaard. Il ne reste plus que 6 km dans cette ascension. S'il veut faire quelques écarts, car il doit à tout prix essayer d'accélérer maintenant.
La moto RMC Arnaud qui se trouve à l'avant de la course.
On va essayer de s'intercaler justement derrière ce groupe de trois dans quelques instants. Donc revenez me voir dans deux minutes, j'aurai plus de choses à vous dire. Voilà.
Ah, y a du monde hein, derrière le groupe de trois. Tu vas retrouver un paquet de motos et la voiture de direction de course également qui est dans la roue de Vingegaard qui est toujours placée en troisième position, prêt à sauter sur Pogacar si celui-ci se met à attaquer. Et on espère que cela va se produire. Hein. Forcément, Jérôme, on espère assister à quelque chose. Est-ce que Pogacar en a les moyens c'est la question
parce que le groupe Pogacar monte pas plus vite que Geraint Thomas et Romain Bardet. L'écart est stabilisé. Est-ce que McNulty il a déjà fait du gros boulot? Est-ce qu'il est pas un petit peu en train de ralentir et d'endormir un petit peu son monde? Est-ce que Pogacar est vraiment si bien que ça? Pas sûr. On sait bien sûr que la toute dernière partie de cette montée pour arriver jusqu'ici est très très raide. Vous pouvez prendre un petit éclat sur les 500-600 derniers mètres, mais s'il veut renverser le tour, faudra pas attendre le dernier kilomètre.
Indication très technique, et là on va avoir besoin de toi Jérôme. On a vu à l'instant les développements utilisés par les deux coureurs, avec tout à gauche pour Pogacar alors qu'il restait encore 3-4 vitesses pour Vingegaard. Est-ce que c'est une indication?
Non, parce que Pogacar c'était gros plateau et tout à gauche derrière, donc chaîne c'était complètement croisée, alors que Vingegaard a mis le petit plateau. Donc en théorie la ligne de chaîne est meilleure pour Vingegaard, ça veut dire qu'on a un meilleur rendement. Mais vous savez, le développement, que vous ayez 53, 28 ou 30 pour il a peut-être même plus hein, Pogacar, donc un gros plateau de 53, la chaîne croisée avec la grosse dent à 30, c'est le même développement que si vous avez le petit plateau de 39 et le 16 milieu de cassette. Par contre, au niveau rendement ligne de chaîne, c'est mieux ce que fait Vingegaard que ce que fait Pogacar.
Il reste un peu moins de 6 km à parcourir dans cette étape. La situation pour l'instant est stabilisée avec toujours ces trois hommes devant: McNulty, l'équipier de Pogacar, Pogacar dans sa roue, et Vingegaard. Le meilleur moment pour attaquer, tu le disais, c'est peut-être dans le final, ou alors quand ça va passer quand même à 3 km 700 de l'arrivée. Il y a de gros pourcentages puisque sur notre livre de route on passe au noir hein, et plus c'est foncé et plus c'est raide. Évidemment, on va voir ce qui se passe dans quelques instants. Pour l'instant, aucune attaque de Pogacar dans la montée.
Non, pour l'instant rien. 5 km 500 encore avant la victoire finale. Alors on sait aussi qu'il y aura des bonifications là-haut, donc c'est on se contente de peu, mais ça peut permettre de grappiller quelques secondes en passant devant son adversaire. Néanmoins, la route là n'est peut-être pas propice à des attaques, comme tu le disais. Voilà, comme tu le disais, il faut passer dans le noir tout à l'heure avec ce profil à Peyragudes qui est très intéressant. À 3 km de l'arrivée, on sera dans des pentes à partir de 9%, et puis le mur final où on a aussi du 16%, mais ça permettra de grappiller quoi, 20-30 secondes peut-être.
Oui, s'il n'y a pas de défaillance, même si Vingegaard pète un petit peu, il ne va pas perdre beaucoup de temps. C'est dans les 2 à 2 500 km à venir, enfin 2 km 500 avant l'arrivée, qu'il faudra attaquer pour Pogacar. Mais jusqu'à maintenant, on l'a vu à l'Alpe d'Huez, il a fait la même chose. Il attaque, mais il n'insiste pas derrière. Là, s'il veut renverser le tour, il va falloir qu'il attaque franchement et qu'il poursuive son effort derrière. Il faut mettre Vingegaard dans les cordes.
Il ne le renversera pas a priori le tour aujourd'hui, mais il pourrait récupérer quelques secondes et de nouveau quelques secondes demain, de manière à se retrouver pas trop loin au classement général dans la dernière grande étape de ce Tour de France samedi, avec ce contre-la-montre de 40 km. 5 km de l'arrivée, est-ce que la moto RMC réussit à se glisser derrière les trois hommes de tête, Arnaud ?
Absolument, nous sommes juste derrière les trois hommes de tête, hein, avec donc, tu l'as dit, Brandon Magnulti qui est toujours devant Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, et Jonas Vingegaard qui continue quand même à faire une très très bonne impression depuis le début de cette étape, comme depuis le début du Tour de France. Je vois difficilement ce qui pourrait encore aujourd'hui le mettre en difficulté. Il y a vraiment une impression de facilité assez déconcertante qui se dégage de Jonas Vingegaard.
Effectivement, Jonas Vingegaard très attentif, toujours en troisième position, dans la position du chasseur, prêt à répondre aux attaques de Pogacar, mais pour l'instant elles ne se produisent pas. On va sans doute assister aux attaques, on l'espère évidemment, dans 2 kilomètres environ, lorsque la pente va de nouveau se cabrer sérieusement. Cyril.
Oui, est-ce qu'il faut qu'il attaque? Parce que s'il attaque, il se met dans le rouge. Oui, Vingegaard, mais... là à portée de main, donc il peut tout à fait dévisser sur 2 ou 3 mètres, lisser son effort et revenir le chercher. Je crois que la solution pour Pogacar, s'il a vraiment le petit cran au-dessus, c'est qu'à un moment, il va falloir qu'il se mette en tête et qu'il mette Vingegaard à la limite de rupture et ensuite le faire sauter. Mais sur des attaques...
Pas sur des attaques violentes.
Sur des attaques franches, ça ne marchera pas.
En augmentant le tempo, mais pas en attaquant comme il l'a fait jusqu'à présent.
Le mettre au point de rupture pour pouvoir l'attaquer après. Là, en a-t-il les moyens?
On verra. On approche évidemment de ce moment de vérité. Sans doute dans 2 km désormais, alors que Geraint Thomas et Romain Bardet sont pointés avec un retard d'une minute 25.
Oui, c'est vraiment Romain Bardet actuellement qui fait la belle opération du jour, parce qu'il est en train tout simplement de revenir, pourquoi pas, dans le top 6, c'est-à-dire juste derrière David Godu, grâce au travail actuellement de Geraint Thomas, qui lui veut assurer son podium et la place de 3e. Ils sont à 1:25 derrière les trois hommes de tête et ils ont toujours 1:30 à peu près d'avance sur le groupe Quintana et Godu.
4 km 500 de l'arrivée. Arnaud, derrière les trois hommes de tête, avec beaucoup de... Il y a un gros bouchon, il y a beaucoup de circulation à cet endroit-là de la course. Hein.
Il y a beaucoup de circulation, il y a également beaucoup de public. Route, heureusement, très très large, qui permet donc aux coureurs de développer, on a envie de dire, leur vélo. Image, je ne sais pas si vous l'avez aperçu à la télé il y a quelques instants, alors même si là on est sur une partie un petit peu plus plate, mais il y a quelques instants, sur une partie un petit peu plus abrupte, Jonas Vingegaard s'est même carrément arrêté de pédaler. Ça a été très furtif, mais il s'est arrêté de pédaler dans la roue de Tadej Pogacar. Encore une fois, il me semble très très bien, Jonas Vingegaard, en observateur là de ce groupe. Et chapeau quand même à Brandon Magnulti, hein, qui tient super bien aujourd'hui, le coureur des États-Unis et coéquipier de Tadej Pogacar. 4 km de l'arrivée pour les trois hommes de tête.
Ouais, effectivement, Magnulti qui fait un superbe travail, comme l'avait fait un peu plus tôt dans l'étape Jérôme Bierg. Ils sont plus beaucoup les UAE, mais aujourd'hui ils ont parfaitement joué leur rôle d'équipier.
C'est ça, alors surtout Bierg et Magnulti, hein, on rappelle qu'il y a encore Hirschi, mais Hirschi a pété de bonheur dans le premier col. Hein. Bierg a pété dans Val-Louron, il est revenu juste avant Val-Louron, pardon, il est revenu, il a roulé, maintenant c'est Magnulti, et on a l'impression qu'il a accéléré un tout petit peu le rythme là, Magnulti. On va voir si on va avoir une attaque de Pogacar.
Oui, parce qu'il y a eu un petit geste aussi de Pogacar qui a pris son micro pour parler. Alors j'ai pas eu le sentiment qu'il parlait, mais voilà, il y a des petits gestes qui nous donnent des indications, sans doute ça risque de bouger dans les secondes qui viennent. 1 minute 30 maintenant derrière Geraint Thomas et Romain Bardet, qui n'arrivent pas à gagner du temps sur les trois hommes de tête, mais en revanche qui maintiennent l'écart avec Quintana et Godu. Vingegaard en troisième position, très attentif, qui surveille parfaitement Pogacar. On va rentrer dans ce fameux passage à 3 km de l'arrivée, où les pentes vont vraiment être plus compliquées.
Effectivement, dans moins d'un kilomètre désormais, Magnulti va-t-il se ranger sur le côté, Pogacar va-t-il attaquer, ou simplement monter le rupteur encore un peu plus haut? Jérôme, est-ce que tu penses que, comme Cyril, il faut qu'il monte le tempo et essayer de mettre à rude épreuve Vingegaard?
Oui, il va devoir essayer. Il a déjà essayé d'attaquer, il a vu qu'il n'a pas fait la différence avec Vingegaard. S'il arrive à monter d'un cran, à aller juste au niveau du seuil, un petit peu plus haut, pour voir si Vingegaard arrive à tenir dans sa roue, mais c'est pas facile. Il est difficile pour Romain Bardet avec Geraint Thomas.
Voilà, Romain Bardet qui est en train de lâcher, de voir s'envoler Geraint Thomas. Nouveau coup dur pour Romain Bardet, qui s'accroche évidemment, mais qui va avoir du mal à revenir sur Geraint Thomas, même s'il n'y a pas eu d'accélération franche, hein. Cyril, c'est juste sur le tempo que Romain ne parvient pas. à suivre.
Oui, mais Romain, tout simplement, il est en train de coincer un petit peu. Il est obligé de lever le pied, et c'est bien de le lever le pied pas trop tard, suffisamment tôt, pour pouvoir se régénérer un petit peu, prendre son rythme et essayer de... De toute façon, le problème de Romain Bardet, c'est de faire le meilleur chrono jusqu'au sommet pour éventuellement revenir, on le disait tout à l'heure, Pierre-Yves le disait, revenir pratiquement dans le top 6.
Il était ce matin 9e au classement général, Romain Bardet, à 6 minutes 37.
Et quelle belle réaction aujourd'hui quand même de Romain Bardet.
Parce que c'est vrai qu'on se demandait s'il allait même prendre le départ.
Là aujourd'hui c'est... il a un comportement de vrai champion.
C'est presque le combatif du jour, on ne l'a pas encore, mais peut-être qu'il pourrait être sur la liste, on verra qui a été choisi par le jury. On rentre dans les trois derniers kilomètres dans un instant pour les hommes de tête. McNulty, lui aussi très combatif aujourd'hui, dans sa roue son leader Pogacar, puis Vingegaard en observateur, 1 minute 30 derrière Geraint Thomas, à quelques secondes Romain Bardet qui vient d'être lâché, et à 3 minutes 12 de la tête de course on retrouve le groupe Quintana et David Godu. Il passe à l'instant sous la banderole des 3 kilomètres.
Voilà, dans 300 mètres environ la pente va se cabrer encore un peu plus. C'est peut-être le moment pour Pogacar de remercier son équipier McNulty et d'accélérer franchement pour tenter de grappiller quelques secondes à Vingegaard. Il ne le reprendra pas, le maillot jaune aujourd'hui, ça c'est déjà une certitude.
Et est-ce qu'il est capable d'accélérer? On commence à en douter, on commence à se demander. Parce que s'il a attendu tant de temps, on a parlé de Valmeron.
Et si c'était Vingegaard qui attaquait dans quelques hectomètres,
et pourquoi
pour
pas
assurer définitivement sa victoire sur
est-ce qu'il a intérêt à le faire? Ça il peut être dangereux aussi.
Il ne doit pas dégainer le premier, Vingegaard. Il doit laisser faire Pogacar, mais s'il sent qu'il est bien, qu'il revient facilement, il doit le contrer, parce que toutes les secondes qui sont prises pour lui, c'est à son avantage en vue du chrono.
2 km 700 de l'arrivée, les pentes se cabrent un peu plus. Pogacar toujours dans la rue de McNulty. Vingegaard en 3e position. Vingegaard qui a toujours ce masque et qui a l'air d'une sérénité totale.
Est-ce que tout simplement Pogacar n'a pas demandé à Brandon McNulty d'assurer le train parce qu'il n'est pas si bien que ça, et finalement il a besoin d'être protégé, peut-être même tout simplement pour pas prendre un éclat complet et sortir, pourquoi pas, du podium? C'est peut-être ça qu'on est en train de se demander. Est-ce qu'il est vraiment en grande forme?
C'est peut-être ça, parce que les kilomètres avancent et il n'y a toujours pas d'attaque. Il n'essaye pas de reprendre la moindre seconde à Vingegaard. Est-ce que McNulty est sur un faux rythme et ils essayent d'endormir un petit peu Vingegaard? Bon, si c'est ça, et ben ça sera une étape qui n'aura rien changé au classement général, mais on a vu quand même Pogacar se retourner une fois ou deux. Est-ce que c'était pour jauger un petit peu Vingegaard ou pas? On va le voir dans les kilomètres à venir.
Arnaud sur la moto derrière les trois hommes de tête.
C'est ce que j'allais vous dire, effectivement. Tadej Pogacar qui s'est retourné à deux ou trois reprises pour voir si où en était Jonas Vingegaard, mais pour l'instant il n'a pas bougé une oreille. Tadej Pogacar, il s'est même pas levé de sa selle depuis le début de cette ascension, à l'inverse de Jonas Vingegaard qui le fait régulièrement, mais qui donne encore une fois, il l'a fait il y a quelques secondes, une impression de facilité assez impressionnante. On dirait que voilà, il fait ça pour se dégourdir les jambes de temps en temps. On a tourné à droite direction Peyragudes et c'est là vraiment que les pentes vont se cabrer, mais messieurs, il me semble quand même que Jonas Vingegaard a un avantage sur Tadej Pogacar dans ses pentes plus abruptes, et donc je vois difficilement comment Pogacar pourrait désormais distancer Vingegaard.
Ouais, ça va être compliqué effectivement pour Pogacar qui ne produit toujours pas la moindre accélération alors que les trois hommes de tête passent sous la banderole, indiquant les deux derniers kilomètres. On a vu également à l'arrière Valentin Madouas qui a effectué son rôle d'équipier, qui vient de se ranger sur le bord de la route. Il laisse David Godu. Ils sont à combien le groupe Godu?
Ils sont à 3.15 de la tête de course, et à Romain Bardet encore 1 minute 30, à peu près 1 minute 25 d'avance sur ces hommes-là. Geraint Thomas, lui, est à une dizaine de secondes devant Romain Bardet et à 1.37 des trois hommes de tête qui vont maintenant se jouer la victoire finale. Brandon McNulty, Pogacar dans sa roue et Vingegaard. Alors c'est pas ce passage-là désormais à 2 km là qui est le plus dur. Les pentes à 16%, c'est dans le dernier kilomètre, donc dans 800 mètres désormais, on va jouer tout simplement la victoire d'étape. Mais je crains que pour aujourd'hui, pour ce qui est du maillot jaune, ça soit déjà joué.
Et le maillot jaune restera sur les épaules de Vingegaard ce soir. Il ne reprendra pas la moindre seconde, en tous les cas pas les deux 2 minutes 22, peut-être quelques secondes, on verra dans quelques instants, mais toujours pas d'attaque de la part de Pogacar. Il n'a pas l'air aussi en forme qu'il l'était l'année dernière il y a deux ans. Il se contente pour l'instant de suivre la roue de son équipier, ne produit pas la moindre attaque. En a-t-il les capacités? Toute l'armada se trouve derrière les trois hommes de tête, dont la moto RMC. Tout le monde attend que Pogacar produise une accélération, mais celle-ci ne vient toujours pas, alors qu'on n'est plus qu'à 1,6 km de l'arrivée et que Geraint Thomas limite les écarts. Il est à 1,35 du groupe de tête.
Oui, Geraint Thomas seul dans la lutte pour le podium. Il sait très bien que devant, Vingegaard et Pogacar prendront très certainement les deux premières places, Cyril.
Oui, et depuis plus de 2 km, Geraint Thomas ne perd pas une seule seconde sur le trio de tête, ce qui veut dire qu'on est dans un faux train, parce que Geraint Thomas ne peut pas monter plus vite que les hommes de tête. Donc s'il monte à la même vitesse, c'est que devant on ne roule pas.
Et même constat pour Romain Bardet qui perd quasiment rien sur Geraint Thomas. Donc il limite la casse.
Également David Godu.
Oui.
Devant ça ne roule pas.
La flamme rouge est bientôt en vue pour les trois hommes de tête qui sont à 1,4 km désormais de la ligne d'arrivée. C'est toujours Brandon McNulty qui fait un travail incroyable depuis le début de cette étape. Pogacar en deuxième position. Il n'a pas le masque des bons jours, me semble-t-il, Pogacar. Difficile évidemment de voir derrière ses lunettes, mais voilà, il n'a pas l'air aussi saignant qu'il l'était avant.
Il y avait trois rounds dans les Pyrénées. Hier, c'était autour du port de l'Hers, du mur de Péguerre, et on a vu Pogacar perdre finalement le premier round. On le voit actuellement perdre le deuxième round. On verra demain, mais là Vingegaard est en train vraiment de faire un grand pas vers la victoire finale en limitant une nouvelle fois la casse et surtout en ne perdant rien. Il reste bientôt 1 km.
Et si Vingegaard allait décrocher la victoire d'étape dans quelques instants, c'est le pari de Cyril Guimard. On le rappelle, Vingegaard derrière qui accélère, qui est passé en deuxième position, qui est passé devant Pogacar. Drôle de tactique là. C'est pour lui dire voilà, c'est moi le patron, tu peux toujours tenter d'attaquer. De toute façon, tu m'auras pas, Jérôme. Hein.
Ouais, alors je pense que c'est Pogacar qui a laissé un trou. Il allait faire semblant de laisser McNulty partir. Et là, il est dans une meilleure position s'il veut attaquer, s'il veut surprendre Vingegaard. Il va pouvoir se laisser décrocher d'un mètre ou deux pour prendre un peu de vitesse pour attaquer Vingegaard. Il est dans une meilleure position derrière Vingegaard que devant.
Cyril ?
Bien, moi je pense que...
Ah, attention, la flamme rouge. La flamme rouge du dernier kilomètre, donc pour les trois hommes de tête. Et toujours pas d'attaque de Pogacar, Cyril. Excuse-moi, la flamme rouge.
Non, je pense que maintenant c'est une arrivée au sprint et que Pogacar, qui a l'habitude de gagner trois étapes par grand tour, va tout simplement essayer d'aller chercher sa troisième victoire d'étape.
Oui, mais maintenant on va être dans des pentes très difficiles, passage à 16%. La bagarre va avoir lieu simplement pour la victoire d'étape et non pas pour le maillot jaune. Ça a fait pchit. Pogacar n'était pas en forme aujourd'hui pour aller chercher la victoire finale et Vingegaard se dresse sur ses pédales. Il ne reste plus que 800 mètres. Et si c'était lui finalement qui était capable d'être maillot jaune à Paris, qui était capable aussi de gagner les victoires d'étape. Il est toujours dans la roue de Brandon McNulty qui ne sait pas vraiment ce qui se passe dans son dos. Peut-être pense-t-il que Pogacar est juste derrière lui. Il n'a pas le sourire, Pogacar. Il n'a pas la tête des grands jours. Il n'est pas dans un grand Tour de France. Peut-être pour une deuxième place, mais très certainement, ça sera compliqué pour une première place.
On est à 650 mètres de la ligne d'arrivée. Situation inchangée. McNulty qui emmène toujours Vingegaard et Pogacar dans sa roue. Les derniers pourcentages sont évidemment les plus élevés, on y arrive là dans quelques instants. Hein.
560 mètres exactement, Cyril.
Et Vingegaard me semble quand même relativement facile.
Oui. Il est probablement celui qui remportera le Tour de France cette année. En tout cas, il ne restera plus qu'une opportunité demain dans les Pyrénées et éventuellement le chrono. Mais on voit mal comment Pogacar pourrait reprendre autant de temps. Allez, le dernier mur, ils l'ont face à eux désormais. Brandon McNulty avec dans sa roue le maillot jaune, Vingegaard, puis Pogacar. Il reste 300 mètres. Qui va lancer les hostilités? C'est Pogacar qui se dresse sur ses pédales, qui va partir sur la droite. Vingegaard qui le regarde, qui lui dit oh là là, ou il lui dit rien, mais avec les yeux, il le pense. Je vais pouvoir te suivre sans problème. Je suis plus fort que toi aujourd'hui. Pogacar toujours en tête. McNulty qui ne peut rien faire pour le moment. C'est parti pour le sprint. Pogacar en tête, qui ne semble pas vraiment tranchant. Vingegaard.
Ouais.
Vingegaard qui semble vraiment en observation comme sur la piste. Il se dresse sur ses pédales. Alors attention, hein, ce mur il est très dur. voiture. Très compliqué, Jérôme.
Oui, oui, très compliqué. Attaque de Vingegaard.
Ça y est, Vingegaard est parti. Pogacar qui tente de prendre la route du maillot jaune. Et si Vingegaard allait encore assommer aujourd'hui Pogacar qui reste pour l'instant dans la roue de Vingegaard, Pierre-Yves.
Oui, parce qu'il y a des bonifications à prendre quelques secondes sur la gauche de la route. On observe Vingegaard sur la droite. On voit Pogacar qui va plus vite maintenant, qui accélère et qui va sans doute aller chercher la victoire d'étape. Vingegaard qui a un peu de mal, Pogacar un peu plus saignant sur ses derniers mètres, et Pogacar qui va pouvoir lever les bras très certainement. Victoire d'étape pour Pogacar devant Vingegaard, la victoire d'étape, mais un coup dur quand même pour Pogacar. Vingegaard l'a emporté dans les esprits.
Effectivement, on voit mal comment Vingegaard pourrait perdre son maillot jaune d'ici l'arrivée sur les Champs-Élysées dans 4 jours maintenant. Certes, il remporte l'étape, mais il n'a rien repris à Vingegaard, mis à part 4 secondes de bénéfication, ce sera tout. Hein. Donc il va revenir à 2,18.
Et 4 secondes, parce que on le sait, Pogacar a des qualités de sprinter, d'explosivité, qui sont supérieures à Vingegaard. 4 secondes, c'est une petite consolation, mais c'est aussi, j'ai presque envie de dire, une défaite consommée.
Oui, c'est une victoire à la Pyrrhus, comme on dit, c'est-à-dire qu'il l'a emporté, certes, mais finalement, il a peut-être tout perdu aujourd'hui. Parce qu'il aurait fallu faire plus, alors que Geraint Thomas, lui, essaye de limiter la casse pour le podium. Il est dans ce fameux mur final, une minute déjà que les hommes de tête et le maillot jaune et le maillot blanc ont passé la ligne. Geraint Thomas, qui va prendre pas mal de retard quand même aujourd'hui, mais malgré tout, il limite.
Non, puis il protège sa troisième place sur le podium.
Exactement.
Geraint Thomas qui se trouve dans les derniers hectomètres de cette étape et qui va donc asseoir sa place définitive sur le podium, car Gaudu et les autres ne lui prendront pas assez de secondes, même si demain ils arrivaient à le taper. Je pense que Geraint Thomas est définitivement installé à la troisième place sur le podium, derrière Romain Bardet qui tente de revenir et qui tente de limiter les dégâts, qui va faire un rapproché au classement général. Ouais. Il s'arrache, Romain Bardet, dans cette montée qu'il connaît bien, hein, Pierre-Yves.
Oui, oui, tout à fait. Romain Bardet qui est dans ce mur final, alors que Geraint Thomas va en terminer. Romain Bardet n'est pas très loin derrière, et on va surveiller aussi l'arrivée dans quelques instants du groupe David Gaudu Quintana pour vraiment regarder les écarts et voir qui a gagné des points aujourd'hui. Romain Bardet, c'est certain, sera peut-être le grand gagnant dans le top 10 de la journée. Geraint Thomas qui va passer la ligne. Attention, top pour le chrono, Cyril, c'est parti. Geraint Thomas qui passe avec 2 minutes 8 de retard sur les hommes de tête.
Et Romain Bardet qui se démène avec son vélo et cette pente terrible. Romain Bardet qui va limiter, mais qui ne reviendra pas évidemment sur le podium. Mais peut-être quelques places gagnées quand même par Romain Bardet, alors que c'est Lutsenko qui va franchir la ligne dans quelques instants avec un retard à peu près de 2 minutes 30. Oh là là, il est à l'arrache, Romain Bardet. Il donne tout dans ses derniers mètres de l'étape. Il zigzague sur la route, tellement la pente est raide. Romain Bardet qui franchit la ligne avec 2 minutes 37 de retard.
Oui, donc à peu près 30 secondes de perdu sur Geraint Thomas. Pendant ce temps-là, un petit groupe est encore à 200 mètres de l'arrivée. C'est le groupe Quintana Gaudu avec Vlasov, avec Luis Mentis qui est présent aussi, et Schultz qui est présent pour la bike exchange. 3 minutes déjà que les hommes de tête sont passés. Quintana qui emmène. Qu'est-ce que c'est dur, que c'est dur cet effort, Jérôme, pour monter ici
et
à Terragude.
Gaudu qui attaque Quintana et qui a encore quelques forces. David Gaudu, Quintana, le Colombien de la formation Arkea, qui ne peut pas suivre le rythme du coureur français de la Groupama.
Et oui, c'est bien joué de la part de Gaudu pour essayer de grappiller quelques secondes. Il sait qu'il en a perdu, évidemment, sur Vingegaard, sur Pogacar ou encore sur Geraint Thomas, mais il peut gagner un petit peu de temps.
Il peut gagner une place sur Quintana. 9 secondes. S'il termine avec 9 secondes d'avance sur Quintana, il le rattrapera une place. Donc 26, il est passé à 26. Quintana qui va garder sa place.
Pour 3 secondes. Ouais, pour 3-4 secondes, Quintana qui va sauver sa
pour
place.
3 secondes.
3 secondes exactement. Le chronométreur officiel de RMC, Cyril Guimard, nous donne 3 secondes.
Très bien, il est 16h51. Victoire donc ici de Tadej Pogacar, le porteur du maillot blanc, qui remporte son troisième succès sur les routes de ce Tour de France, mais qui ne rattrapera pas la moindre seconde, enfin si, 4 petites secondes, donc sur Vingegaard, grâce aux bonifications. Il a l'air d'être au bout de lui-même, Pogacar.
résultats.
Oui, il prouve aujourd'hui qu'il n'est pas capable, en tout cas, de faire de grandes attaques et de distancer véritablement, de lancer les attaques de loin. Donc, c'est pas un très bon signe pour demain. Mais il faut dire qu'il n'a plus grand monde avec lui dans son équipe.
Il est 16h52. On va laisser passer les infos. On va revenir et débriefer, évidemment, pendant une heure, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Les enseignements de cette étape, c'est le principal enseignement, c'est que Vingegaard sera probablement en jaune dans 4 jours à l'arrivée sur les Champs-Élysées à Paris. Certes, il a été battu, mais il conserve son maillot jaune. A tout de suite sur la route du Tour.